Bonjour à toutes et à tous, content de vous voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je suis membre de cette assemblée et j'ai le plaisir de pouvoir partager quelques réflexions sur ce texte magnifique, ce Noël. Vous avez vu qu'on a lu à partir du verset 23, mais j'ai imprimé exprès les versets précédents pour que nous puissions voir un peu le contexte de ce texte aussi, qui est très important. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce texte. Donc je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour cet enfant qui nous est né, ce Sauveur qui apporte la lumière, Seigneur, et on veut que cette lumière brille dans nos cœurs, dans nos ténèbres, ce Noël, que tu puisses nous donner d'être attentifs, d'écouter, de comprendre, d'être touché, émerveillé, transformé par ta voix dans ta parole ce matin. On prie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez parfois le sentiment de marcher dans les ténèbres? En cette période de l'année autour de Noël, on ne peut pas ignorer les ténèbres. En fait, on est à 6 jours près de la journée la plus courte de l'année, samedi prochain. Cette semaine, pour déposer mon petit à l'école maternelle à 8h30 le matin, j'ai dû littéralement marcher dans les ténèbres. Et c'est vraiment pas agréable. Et ce n'est pas juste une question d'un manque de vitamine D. Les ténèbres ont un effet profond sur notre état d'esprit. Ça nous enveloppe, ça nous étouffe, nous opprime. Ça nous rend, ça entraîne la fatigue, la léthargie, la lassitude, voire dans certains cas, la dépression saisonnière. Et c'est pour ça que nous aimons décorer nos maisons avec des bougies, des guirlandes lumineuses. Et c'est pour ça que nous attendons le retour du soleil printanier. Mais bien sûr, j'évoque aussi les ténèbres métaphoriques. Si je vous dis que nous vivons dans un monde sombre, l'image serait quasi universellement comprise. Là, j'évoque le mal, la détresse, le désespoir et aussi l'ignorance spirituelle ou l'ignorance morale. Il suffit de penser aux conflits en Syrie cette semaine ou en Israël et en Palestine, en Ukraine, etc., ou les fusillades et attentats récentes, le trafic sexuel, l'esclavage des enfants, la pauvreté, les catastrophes naturelles, la maladie, la corruption politique, le harcèlement sexuel, la violence domestique, l'intimidation à l'école, les mariages et les familles brisées, l'insécurité financière, l'inquiétude, les troubles psychologiques, les traumatismes du passé, et on pourrait multiplier les exemples. Et parfois, toutes les bougies et les guirlandes lumineuses ne peuvent pas chasser les ténèbres. Et j'ai lu un article sur le site Évangile 21 cette semaine, initialement publié en décembre 2020, pendant la pandémie, qui dit ceci: éteignez les lumières, rangez les sapins, arrêtez la musique, faites silence. Nous ne pouvons nous réjouir, nos cœurs sont abattus. Cette année, Noël fait trop mal. Ces phrases font-elles écho à votre cœur? C'était l'expérience du peuple dans notre texte. Regardez les versets qui précèdent notre passage. Le verset 20: il n'y aura point d'aurore pour le peuple. 22, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Et ces termes sont repris dans notre passage aussi, verset 23, les ténèbres, les angoisses. Verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. C'est lourd. Et concrètement, qu'est-ce que ce peuple expérimentait qui était si sombre, si angoissant? D'abord, les chapitres 7 et 8 présentent une crise géopolitique. On est vers l'an 735 avant Jésus-Christ, l'empire assyrien commence à s'emparer de grandes parties du Proche-Orient. Et à cette époque-là, le peuple juif se divise en deux pays, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et Israël veut que Juda les rejoigne pour combattre les Assyriens. Mais Juda refuse et maintenant Israël tourne contre Juda. Et Akaz, le roi de Juda, refuse de faire confiance en Dieu pour les protéger. Il préfère, ironiquement, faire appel à l'Assyrie pour les protéger. Et donc Dieu lui dit que l'Assyrie s'emparera bien d'Israël, mais ensuite, parce que Akab n'a pas fait confiance en Dieu, l'Assyrie va tourner contre Juda aussi. Et si tout cela ne suffisait pas, un autre événement pire encore se trouve aussi sur l'horizon, l'exil en Babylone. Si vous n'avez pas suivi tout ça, pas de souci. Bref, c'était le bazar. De multiples menaces imminentes et futures. Le destin du peuple d'Israël et de Juda était très sombre. Mais ces ténèbres ne décrivent pas uniquement une crise géopolitique. Si toutes les menaces arrivent, c'est justement parce qu'il s'agit d'un jugement de Dieu sur le peuple d'Israël et de Juda. Et vers la fin du chapitre 8, les ténèbres évoquent explicitement l'ignorance spirituelle et la rébellion contre Dieu. Regardez le verset 19. Le peuple refuse d'écouter Dieu et préfère se confier dans l'occultisme. Et dans le verset 21, le peuple maudira son roi et son Dieu. Ces ténèbres sont donc une obscurité spirituelle, un manque de connaissance de Dieu et un désespoir face au jugement de Dieu. Et qui est-ce que ces problèmes concernent? Est-ce qu'il y en a ceux qui peuvent s'y échapper? Bon, il y a trois groupes de personnes en vue ici. Il y a en premier lieu les juifs infidèles, comme le roi Akaz et les autres juifs qui abandonnent Dieu. Ils sont dans les ténèbres spirituelles et ne pourront pas échapper au jugement sombre de Dieu qui arrive. Mais il y a ensuite un petit reste de juifs fidèles, notamment Esaïe et ses disciples qui sont mentionnés dans le verset 16. Eux, ils ne sont pas dans les ténèbres spirituelles de la même manière et il semble qu'ils pourront peut-être bénéficier d'une certaine mesure de la protection de Dieu lors des attaques imminentes. Mais eux non plus, ils ne sont pas à 100% à l'abri des menaces à venir. Ils subiront eux aussi les conséquences parce qu'ils font partie du peuple juif. Et troisième groupe, les non-juifs sont inclus ici aussi. Verset 23 parle de l'opprobre du pays de Zabulon et du pays de Naphtali, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire ou Galilée des païens. Il s'agit d'une région à l'extrême nord d'Israël, connue sous le nom de Galilée. Depuis des siècles, les Juifs de cette région se mélangeaient avec les peuples avoisinants, de sorte que les autres Juifs les méprisaient. Pourquoi cibler cette région? Parce que c'est la pire des pires. Après tout, qui sont dans les ténèbres les plus profondes? Ben, les non-Juifs ici, qui ne connaissent pas Dieu du tout, qui sont vendus au péché sous le jugement de Dieu. Tout cela pour dire que personne ne s'échapperait entièrement aux ténèbres. Toute l'humanité marchait dans les ténèbres, même la majorité des Juifs marchait dans les ténèbres, même le petit reste fidèle des Juifs ne pouvait pas entièrement échapper aux ténèbres. Même les lecteurs d'Ésaïe, après l'exil, aurait reconnu le même problème. Malgré le retour dans le pays, ils subissaient toujours l'oppression de leurs ennemis et le problème du péché subsistait. Et tous ceux qui lisent Esaïe aujourd'hui doivent faire face aux ténèbres. Il suffit de penser aux choses que j'ai évoquées au début. Mais ce passage nous dit que le problème le plus profond est l'obscurité spirituelle. Il suffit de regarder au monde autour de nous, l'ignorance de Dieu, la rébellion ouverte le chaos moral. Il se peut que certains parmi nous ce matin marchent encore dans les ténèbres. Si c'est vous, est-ce que vous vous rendez compte de votre situation? Selon ce texte, vous êtes dans les ténèbres de l'ignorance de votre Créateur glorieux et de sa volonté dans la Bible. Et pour ceux qui ne viennent pas à la lumière, une nuit encore plus profonde à venir attend les ténèbres du jugement éternel de Dieu. Il n'y aura aucune aube. Dans les mots de Jésus lui-même, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous, chrétiens, nous ne marchons plus dans les ténèbres, on va voir cela, mais cela n'empêche pas ce que les ombres de notre ancienne vie ne viennent parfois obscurcir notre vision, le péché qui subsiste dans nos vies, ou les doutes et les peurs spirituelles. Et après tout, nous vivons encore dans ce monde sombre et nous ne sommes pas à l'abri de l'impact du péché sur nos vies tout autour de nous. Nous aussi, nous devons reconnaître que les ténèbres peuvent parfois nous troubler et nous avons besoin de revenir encore et encore à la lumière. Cela nous amène à notre deuxième point sur les fiches devant vous. On a besoin de contempler la lumière de Christ. Contemplons la lumière de Christ. Plus les ténèbres sont profondes, plus on apprécie la lumière. La ville la plus au nord du monde se trouve dans l'archipel de Svalbard, au nord de Norvège. Là, le soleil descend sous l'horizon en octobre et ne réapparaît qu'en février. Imaginez ça. Imaginez le soulagement de voir la première aube depuis presque quatre mois de ténèbres. C'est pourquoi Ésaïe martèle la profondeur des ténèbres, afin que nous puissions mieux apprécier la gloire de la lumière, de l'aube. Le contraste dans le verset 23, c'est, vous m'excusez, le jour et la nuit. Après les épaisses ténèbres du verset 22, il nous rassure que les ténèbres ne régneront pas toujours. Même la Galilée, la pire des pires, verra un retournement de situation remarquable. Vous voyez ça? Ésaïe dit que l'opprobre sera remplacé par la gloire. Et donc il semble que le peuple dans le verset 1 est aussi en premier lieu la Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oui, il semble que cette région de juifs infidèles et de non-juifs sera la première à voir l'aube. Un peu comme les habitants du Svalbard qui subissent les pires ténèbres, bénéficient ensuite de plusieurs mois de soleil incessant. Et je pense que Ésaïe choisit l'exemple le plus extrême afin d'inclure tout le monde. Après, comme nous avons vu dans le contexte, tout Israël et Juda doivent faire face aux ténèbres, eux aussi. Ainsi, s'il y a de l'espoir, même pour la Galilée, il y a de l'espoir pour tout le monde. S'il y a une aube, même au Svalbard, il y aura une aube samedi prochain ou dimanche prochain après la nuit la plus longue de l'année ici en Belgique. Qu'implique concrètement cette métaphore de la lumière? Dans les versets 2 à 4, Ésaïe nous éclaire. Encore un jeu de mots, pardon. Dans le verset 2, il décrit d'abord l'impact émotionnel, la joie. La joie, le bonheur, le contentement, c'est ce dont nous recherchons. Cela est en contraste avec l'angoisse du verset 22. Et on imagine en effet la joie des habitants du Svalbard lors de cette première aube de l'année. Ésaïe emploie aussi deux autres images pour nous aider à saisir la joie ici. Il dit que c'est comme la joie tant attendue d'un agriculteur, lors d'une moisson réussie. Mon épouse Fiona a grandi dans un village en Suisse entouré de vignes. Dans la région, la moisson des vignes est tellement importante qu'il y a même des vacances scolaires pour libérer les enfants, pour donner un coup de main avec les vendanges. Et on imagine la joie et le soulagement chaque année de voir de belles grappes de raisins remplir les remorques. Esaïe dit que cette joie est aussi comme la joie inattendue du partage du butin lors d'une victoire militaire. Bon, je n'ai jamais gagné une victoire militaire, à part peut-être lors des jeux de société. Mais cette semaine, mon fils a gagné un concours pour recevoir des billets pour le musée Technopolis. Vous aurez dû voir la surprise et la joie sur son visage quand on a reçu la nouvelle. Ça nous parle un peu. C'est ce genre de joie et attendue, la moisson, et inattendue, la victoire, le butin, qui attend le peuple à l'avenir. Mais Esaïe, il présente aussi des détails encore plus concrets, des bénédictions matérielles. Déjà, l'image de la moisson et du butin pourrait avoir un accomplissement littéral, un avenir abondant peut-être. Mais c'est encore plus clair au début du verset 2. Il s'agit de la bénédiction de la multiplication. La multiplication du peuple juif, c'était l'une des premières promesses données à Abraham. Et c'est particulièrement pertinent à l'époque d'Ésaïe, car leur existence est menacée. D'autant plus pour les lecteurs d'Ésaïe après l'exil. Un petit reste de rescapés. Donc, quelle joie de savoir que le peuple sera un jour de nouveau nombreux. Ensuite, dans le verset 3, il s'agit de la bénédiction, de la libération de l'oppression. La domination assyrienne et ensuite babylonienne est sur l'horizon. Même après l'exil, le peuple restait opprimé par les nations. Esaïe dit que l'oppression pèse comme un joug, comme un fardeau. Elle fait mal comme un bâton qui frappe. Cette semaine, nous avons vu la fin du règne du président Assad en Syrie. Nous avons vu la joie de beaucoup de Syriens qui espèrent être enfin libérés de l'oppression. Évidemment, la situation reste délicate. Mais on comprend à quel point la libération est source de joie. Ensuite, dans le verset 4, il s'agit de la fin de la guerre. Après des siècles de conflits et face aux attaques imminentes, on comprend la pertinence pour le peuple juif. Et si vous avez vécu dans un pays ravagé par la guerre, vous comprendrez. On a besoin non seulement d'un cessez-le-feu temporaire, mais d'une fin définitive à tout conflit. C'est ce qu'Esaïe décrit ici. Un jour, la paix sera tellement définitive qu'on pourra même brûler les habits de guerre parce qu'on n'en aura plus besoin. Il évoque ce jour de Madian, ça évoque la victoire de Gédéon, une victoire improbable, la fin d'un conflit. La lumière représente donc un retournement de situation remarquable, la joie à la place de l'angoisse, l'abondance matérielle, la multiplication d'un reste, la libération et la paix. Et on se demande, comment est-ce possible? Comment un peuple qui se rebelle contre Dieu peut-il échapper aux ténèbres qu'il mérite? Et ce qui est très clair dans les versets 5 et 6, c'est que ce retournement de situation n'est seulement possible grâce à Dieu. La fin du verset 6 résume cela. « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Vous voyez les deux caractéristiques de Dieu dans ce verset. L'Éternel des armées est un titre pour Dieu, utilisé beaucoup par Esaïe pour parler de la puissance de Dieu. Et ensuite, son zèle, ça évoque son désir intense. Autrement dit, Dieu a et le vouloir et le faire pour accomplir ce retournement de situation. Et même si Ésaïe ne mentionne pas explicitement le pardon des péchés ici, on voit dans ce texte la preuve que Dieu est bien disposé envers ce peuple pécheur. Malgré leur péché, il veut et peut les pardonner, les délivrer, les bénir. Voilà pourquoi ce retournement de situation est possible. Mais Ésaïe va plus loin. Il nous montre comment Dieu va agir. Au final, cette lumière qui brille est un enfant. Et ce n'est pas la seule fois que cet enfant est mentionné dans ce chapitre. 7:14 dit que la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 11:1 aussi évoque ce même enfant. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez, cet enfant est le descendant promis à la maison royale de David. Un descendant qui naîtra un jour du petit reste du peuple d'Israël, mais qui déclenchera un avenir merveilleux. Et en effet, 9:6 confirme que cet enfant sera en effet l'héritier du trône de David. Mais cet enfant a une identité encore plus étonnante. On a ses titres dans le verset 5, ce texte, ce verset bien connu, pour de bonnes raisons. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant n'est nul autre que Dieu lui-même vêtu de chair humaine. Et le Nouveau Testament nous aide à comprendre qu'il s'agit de Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Y a-t-il de miracle plus extraordinaire? Dieu le Fils, éternel, infini, tout-puissant, glorieux, le Créateur de l'univers, en qui toutes choses subsistent, incarné dans un bébé. Et parce qu'il est divin, ce Messie a aussi le droit et la capacité de donner des conseils merveilleux, merveilleusement sages à l'humanité. Il est aussi capable d'être pour nous un Père. C'est bien Dieu le Fils ici et pas Dieu le Père, mais même Dieu le Fils aura une autorité bienveillante comme un père envers un enfant. Et il sera le prince de la paix, le seul capable de régner avec bienveillance, d'inaugurer la paix entre l'homme et Dieu et la paix sur la terre aussi. Vous voyez comment cet enfant arrive à apporter les bénédictions des versets 2 à 4. Il est assez bon et paisible pour avoir de la compassion sur les pires rebelles. Il est assez puissant pour vaincre tous les ennemis et pour mettre fin à l'oppression. Il est assez juste et sage pour nous guider dans les voies de Dieu. Il est capable de porter la domination sur son épaule et de régner par le droit et par la justice et pourra donc prendre soin de son peuple. Et parce qu'il vit éternellement, son règne ne prendra jamais fin, dit le verset 6. À qui cette prophétie est-elle destinée? Les Juifs infidèles à l'époque, voire même les non-Juifs qui auraient entendu cette prophétie, ils devaient quand même se repentir et croire en Dieu et rejoindre le petit reste fidèle. Ils auraient pu revenir à la lumière de la connaissance de Dieu. Ils auraient peut-être bénéficié d'une protection partielle lors des attaques imminentes, mais ils auraient reconnu que la réalisation finale de cette prophétie ne serait pas possible dans le court terme, pas possible sans la venue de cet enfant spécial. Seul cet enfant peut dissiper les ténèbres. L'idée d'un enfant spécial se trouve dans plusieurs livres ou films. Je prends l'exemple vous connaissez la première épisode de Star Wars. Selon une prophétie ancienne, un enfant viendra un jour sauver la galaxie et les Jedi découvrent un enfant de à peu près 10 ans, un pauvre esclave qui a pourtant des capacités extraordinaires. Et il y a une scène touchante où ils se disent « Oh, on l'a trouvé !» Celui qui est mentionné dans la prophétie, l'enfant qui porte l'espoir de toute la galaxie. Bon, ok, ça nous semble un peu fantaisiste, mais en même temps, ça nous parle. L'espoir de toute l'humanité, placé dans un enfant. Et si c'était le cas, eh bien, selon le Nouveau Testament, la prophétie d'Ésaïe n'est pas une chimère, mais c'est bel et bien accompli en Jésus-Christ. On pense à l'annonce des anges aux bergers dans Luc 2, 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et dans Luc 1, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, reprend le langage d'Ésaïe 9 et parle d'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et un peu plus loin, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et Jésus lui-même dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et ce n'est pas par hasard non plus qu'il a commencé son ministère en Galilée. Il est l'enfant qui est venu pour les pires des pires, celui par qui le Dieu zélé et puissant accomplira ce retournement de situation extraordinaire. Le seul qui peut nous apporter les bénédictions promises. Le seul qui peut dissiper les ténèbres. Le Nouveau Testament place l'accent sur l'accomplissement spirituel d'Ésaïe 9. Il y aura un jour un accomplissement physique, mais on en parlera après. Il suffit de lire Matthieu 4, 15 à 16, qui reprend Ésaïe 8, 23 et 9, 1, quand Jésus commence son ministère en Galilée. Et après la citation, que fait Jésus? Vaincre les ennemis? S'asseoir sur le trône de David? Assurer une bonne moisson? Non. Matthieu dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même à l'époque d'Ésaïe, c'était clair qu'il fallait en premier lieu résoudre le problème du péché. Mais dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair. Jésus incarne le zèle et la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs. Il est assez bon et paisible pour avoir de la compassion sur les pires rebelles. Il est assez puissant pour vaincre le péché et la mort. Dans le langage d'Ésaïe lui-même, d'Ésaïe 53, sur la croix, Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ensuite, grâce à la croix, il pardonne nos péchés, nous accorde la paix avec Dieu, nous délivre de l'oppression du diable et nous donne toute bénédiction spirituelle. De plus, il est assez juste et sage pour nous guider dans la connaissance de Dieu. Il est capable de régner en justice et de prendre soin de nous comme un père avec ses enfants. Et parce qu'il vit éternellement, son règne ne prendra jamais fin. Vous voyez l'accomplissement spirituel d'Ésaïe 9 en Christ. Voilà notre lumière, notre joie, notre paix. Pour en bénéficier, il faut revenir à la lumière. Les Juifs infidèles à l'époque, pour en bénéficier, même partiellement, devaient se repentir, faire confiance en Dieu, rejoindre le petit reste. Ésaïe indique que cela n'est pas facile et exige de l'humilité. Eux, ils devaient lâcher leur confiance en eux-mêmes, accepter qu'ils sont dans une situation aussi lamentable que celle de Galilée, croire ensuite que Dieu peut dissiper les ténèbres les plus profondes, croire que leur espoir se trouve dans un enfant, pas très impressionnant, accepter de rejoindre un petit reste méprisable, pas très motivant, et pourtant ça valait la peine, même à cette époque-là. C'est pourquoi, malgré tout, Ésaïe peut dire dans 8, verset 17, « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Et pour nous aujourd'hui, revenir à la lumière reste difficile. Cela exige une foi humble, lâcher notre confiance en nous-mêmes, avouer que nous sommes dans une situation lamentable sans Dieu, croire ensuite que Dieu peut dissiper les ténèbres les plus profondes, accepter de suivre un roi qui est risible et méprisé, scandaleux pour le monde, un bébé dans une crèche, un roi pendu sur une croix. Accepter aussi de rejoindre une minorité méprisée par le monde. Oui, la foi chrétienne peut sembler obscure et le monde lumineux. Mais tous les plaisirs de ce monde ne sont que des guirlandes lumineuses sur nos sapins. Leur étincelle nous attire temporairement, nous fait oublier les ténèbres temporairement, mais ne peuvent pas chasser la nuit profonde dans laquelle nous vivons. Même pour nous chrétiens qui sommes revenus à la lumière, marcher dans la lumière est difficile. Les guirlandes lumineuses de notre monde nous attirent toujours. Christ n'a pas toujours l'air très glorieux. Et parfois, les ténèbres semblent juste trop profondes. Vous êtes peut-être accablés par les ténèbres en ce moment. Peut-être que votre péché semble trop noir. Peut-être que la noirceur de vos circonstances remplit vos yeux et vous empêche de voir la lumière du Christ. Ou peut-être que le monde semble trop noir pour croire que Dieu est vraiment bon et aux commandes. Peut-être que le christianisme semble trop faible et méprisé pour croire que Dieu est vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Ou peut-être que les ténèbres de la dépression vous guettent au point où vous pensez ne plus pouvoir retrouver la joie. Et pourtant, la lumière brille et beaucoup plus fort qu'à l'époque d'Ésaïe. N'oublions pas les bienfaits qui nous appartiennent si nous venons à Christ, le pardon de tous nos péchés, la paix avec Dieu, la délivrance de l'oppression du diable, toute bénédiction spirituelle, l'aide de Dieu pour vivre une manière juste, la protection sous son règne juste et bienveillant, la réconciliation avec les autres aussi, et la participation dans la mission pour être une lumière pour les nations. Si les ténèbres nous guettent ce Noël, nous devons lever les yeux vers l'enfant divin, vers la lumière de Christ. Les ténèbres vont peut-être pas disparaître du jour au lendemain, mais prions pour nous-mêmes et pour les autres que Dieu nous aide à contempler la lumière de Christ et à nous en réjouir. Et au final, nous devons accepter que nous vivons encore dans un monde sombre. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée physiquement. Quand Jésus revient et nous amène à sa nouvelle création, il apportera ainsi toute bénédiction matériel, il nous délivrera de toute oppression humaine. Il mettra fin à tout conflit. Son règne sera absolu et reconnu sur toute la terre. Nous vivrons dans une société juste et sans mal. Et sa gloire et notre joie ne fera que grandir chaque jour pour toute éternité. Oui, nous vivons encore dans la longue nuit polaire, comme les habitants du Svalbard, mais nous guettons l'aube sur l'horizon. J'aimerais lire pour terminer la suite de l'article que j'ai cité tout à l'heure. L'auteur comprend bien, de par sa propre expérience, ce croisement entre la lumière et les ténèbres dont, dans lequel on vit. Je lis. Il y a quelques années, notre réveillon de Noël, consacré à préparer l'enterrement de notre fils, était bien loin de ce à quoi nous nous étions préparés. L'obscurité paraît alors plus appropriée qu'une lumière forcée. De quoi avons-nous besoin en ce Noël? Plus de lumière, plus de chaleur? Non, nos cœurs ont besoin de repentance, de réconciliation avec notre Créateur. Et cette réconciliation, Dieu l'a rendue possible par la venue de son Fils, Emmanuel. Il a fait briller la seule lumière qui peut vraiment nous sauver. Nos cœurs peuvent être comblés en lui, même dans la souffrance. Notre attente est à la fois terminée par la délivrance qui nous est donnée et à la fois renouvelée dans l'espérance de son retour. Pour vous qui souffrez, qui vivez la réalité du mal dans notre monde, la lumière de votre salut resplendit. Prions.